Et voilà qu'arrive l'équipe de Lilith Martin et Votre sur la piste d'atterrissage.
Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable!
Ça fait 10 ans qu'elles prennent les ondes hertziennes.
Elles nous arrivent tout droit de Radio Canu.
Toute la galaxie ne capte pas le 102.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
Lilith, Lilith, réveille-toi là. Lilith, c'est 17h. Lilith, c'est 17h. C'est l'émission féministe. Faut qu'on prenne le micro.
Des poupées. T'es qui, toi? Mais enfin, tu vois bien que je suis une fille. Une fille? Ah oui, je connais une fille. Non, mais ça va pas la tête. D'abord, le rose, c'est la couleur des saucisses. Burk, burk, burk et reburk. Être une fille, ça ne rime ni avec balayette, ni avec robe à paillettes. Et c'est ça qui est chouette. Et je ne suis pas que jolie, n'en déplaise à certains. T'as vu comme je suis forte aussi? Et hop, tout un tas de meubles, tout un tas de trucs sur un plateau et je le tiens juste avec une main. Tac! J'ai échangé ma poupée contre les jeux de construction de mon frère et il s'éclate. Je ne veux pas être une princesse, je veux être une chevalière, je veux zigouiller des dragons. Ou leur chatouiller le menton si c'est des dragons mignons. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me sauver, je peux très bien me défendre toute seule. Je parle fort parce que j'ai des choses à dire. Devoir être sage comme une image, et puis quoi encore? Mes amoureux, mes amoureuses, je leur donne la main et je leur fais des bisous, si je veux, quand je veux, où je veux. Je serai peut-être une maman, ou pas. Quand je serai grande, je volerai dans le ciel, très loin, très haut, très vite. Je ne demande pas à la lune. Les filles sages vont au paradis, les autres, elles vont où elles veulent. Alors, ça y est, t'as compris? Je peux être qui je veux, en avant toutes.
Millimètre en filigrane, je te stabile dans le crâne. Ce style instable distille, habile, évolubile. Quitte omnubile et distille, ses salves indélébiles. Ses potions de pistil, ses élans de presqu'île. Je deal du texte à pile en baril tellement il qu'il congédie la combi des ma pile. Quand je fais mon cirque, ça scintille plus qu'à Piccadilly. Je garde à l'œil qu'au fond Jekyll pourrait finir par Kill et Billy. J'ai dans le citron des nappes de nuées de piaf. Je suis des yeux, leur virage chorégraphe. Je traduis leur sauce pisse entre deux taf. Ils me kidnappent dans leur cap cartographe. Ils captent mes signes. Et me capture dans la toile de leur simultané bal plané de figures. Retourne et repeigne le ciel de mon ventre. De quoi faut-il à ce point que je me déconcentre? Sous les hélicos ratisseurs, tapageurs et patrouilleurs, je regarde le monde à l'extérieur avec ce que j'ai à l'intérieur. Sous les hélicos ratisseurs, tapageurs, patrouilleurs, baladeurs, je monte le son dans les écouteurs. J'entends les murmures rieurs des murs et des merles moqueurs qui refont le monde à l'extérieur avec ce qu'ils ont à l'intérieur. À l'intérieur. Mon regard hagard s'égare entre les gares, sur ces hangars vantards, puis ces camtars bavards qui sont criés gares, s'emparent des boulevards tôt ou tard et poussent sur les radars en arguant les jetards, hurlant en gras et en grand à coups de griffes, à coups de dents, à qui l'entend, la rue sera à qui la prend. J'ai des ressources à la louche, quand je sursaute à la perche, cette fine qui est trop farouche, finirait pas sur son merge. Elle qu'aime tellement faire mouche qu'elle aille flairer ta perche. J'ai tout de suite vu que sa bouche t'es son moteur de recherche. M'en conne qu'elle est là dans chaque pas chez Selecta. Je viens chaparder les plans d'un architecte dictat. Arracher les branchements de ses dialectes dixa. C'est Rodka, le grand chambardement, je m'en délecte déjà. Entre bourrasques, narquoises et paroisses escarpées, dans mon carquois, être inadéquat demeure priorité. Ivresse lexicale, écrire des vers au mescal, poursuivre des escales, assis, assis, tal qual. Système des terres, des mers, des contre-dribles, trouver des combustibles non imposables. Ces insatiables cames qui te criblent, la liberté s'arrache sûrement comme leurs câbles. Sous les hélicos ratisseurs, tapageurs et patrouilleurs, je regarde le monde à l'extérieur avec ce que j'ai à l'intérieur. Sous les hélicos ratisseurs, des prestidigitateurs font suinter la sueur et s'introduisent au sécateur pour écrire à l'extincteur. On regarde le monde à l'extérieur avec ce qu'on a à l'intérieur. Entre les stalactites de crasse et leurs bas-reliefs, je pose mes sticks et je rase plus vite que le zèf. J'ai vu pousser les grilles et les pics anti-SDF et ces accouloirs sadiques tandis que dans le ciel de la def. Squat les races, casse de l'air, squat ma rue. Sans payer taxes, aucune gangrène m'a vu. Comme ces écus sont bancaires à l'affût du moindre espace nu pour planter leurs drapeaux et leurs grues. Tous les 14 juillet prennent les nuages en otage. Éclairage à l'excès, mirage et gaspillage. Quadrillage, piquage, fichage, filtrage. Péter les accès, trouver les passages. Pourvu que la porte s'ouvre, je jouerai à ce que je trouve. Où est à finir sourde, j'entends la valse de mon pouls. Dans les forêts de mes doutes, elle marche à pas de loup. Et les soirs de pleine lune, elle me donne rendez-vous. Sous les hélicos ratisseurs, tapageurs et patrouilleurs, je regarde le monde à l'extérieur avec ce que j'ai à l'intérieur. Sous les hélicos ratisseurs, des prestidigitateurs font suinter la sueur et s'introduisent au sécateur pour écrire à l'extincteur. On regarde le monde à l'extérieur avec ce qu'on a à l'intérieur. J'étais petite, je regardais la street et je croisais ce type qui avait l'air addict d'écrire seul au feutre des briques et des vitres. C'était ça son trip, à défaut d'une clique, j'étais son public et je me suis dit qu'on était peut-être une meute. Et je me suis dit qu'on était peut-être une meute.
Bonsoir, vous êtes bienvenus sur le 102.2 et vous écoutez Lilith, Martine et les autres. Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver. Et dans l'hémisphère nord, ça correspond au jour le plus court, mais c'est aussi la nuit la plus longue. L'occasion pour nous de vous inviter à célébrer ce jour avec nous. Quoi de mieux pour cette longue nuit que de se conter des histoires et d'attendre patiemment de voir renaître un nouveau soleil, un nouveau jour. Quand on parle de contes, on s'attend aux histoires de notre enfance, celles où les filles sont bien sages, endormies, passives, et les garçons, eux, sont forts, courageux, sur leur beau cheval blanc, à la recherche de la princesse à délivrer. Les contes dont nous allons parler ce soir ne correspondent pas à cela. On va essayer de s'éloigner de ces stéréotypes, car il n'existe pas un seul archétype de la féminité et de la masculinité. En fonction de là où l'on est, et qui les raconte, les symboliques changent. Ils s'inspirent évidemment de récits traditionnels, mais pas uniquement. Il y a aussi de la mythologie, des légendes ou des histoires contemporaines, et puis ceux faits main par nous-mêmes. Nous les avons choisis pour petits et grands, pour celles et ceux qui nous ressemblent, celles et ceux qu'on a tendance à oublier dans l'histoire. Les contes, c'est une histoire de transmission. On y entend nos petits et gros problèmes, nos réflexions, ça parle de ceux et celles qui nous entourent, ceux et celles qui nous inspirent, ceux qui font sens, ceux qui n'existent plus. Ce que l'on voudrait croire ou voir, ce qui nous fait rire ou ce qui nous donne de la force. En Belgique, il y a un événement qui s'appelle les Dimanches du Conte. Et pour fêter leurs 10 ans sur l'année 2018-2019, les organisatrices ont décidé de programmer uniquement des meufs conteuses, et voilà ce qu'elles disent. Il y a énormément d'histoires qui ont survécu depuis des millénaires, parce qu'elles sont transmises de manière orale. Ce qui veut dire qu'elles ont pu évoluer au fil du temps. Si je te raconte une histoire et que tu dois la raconter à nouveau par après, tu ne rediras pas exactement ce que j'ai dit. L'histoire va légèrement changer.
tu vas te rappeler de certains éléments et pas d'autres. Mais aussi, si tu veux changer certaines choses, tu auras la liberté de le faire. Les conteurs et les conteuses font cela depuis toujours. Une partie de la société pense que les contes se réduisent à leur écrit, mais ce n'est jamais qu'une version qui transmet la vision de ces artistes-là, avec leur morale à eux. Une morale qui, de surcroît, a souvent été influencée par l'Église catholique, saccageant fortement ce que beaucoup d'histoires racontaient à la base. C'est intéressant de prendre ces histoires et d'en retrouver plusieurs autres versions dans le monde, puis d'en faire sa propre version. En faisant cela, on sort de cette symbolique figée et stéréotypée. Bon, vous aurez compris, ce soir, Lilith, Martine et les autres naviguent dans le pays des imaginaires, de nos imaginaires. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ?
Au large de la côte ouest des Irlandes, la nuit de solstice d'été, deux pêcheurs rentraient de la pêche. C'étaient deux frères, Tom et Patrick Moore. Ils ramaient sans bris vers la baie, fatigués de la pêche. Mais lorsqu'ils s'approchaient de la baie, ils ont entendu des rires et des chants. Et au loin sur la plage, ils ont vu un groupe de femmes qui dansaient. Les frères ont accosté leur bateau loin des danseuses et se sont cachés derrière des rochers pour mieux les regarder. Et ils ont vu que c'était pas n'importe quelle femme. C'était des femmes nues qui dansaient et chantaient au clair de lune. Le frère de Tom lui a chuchoté : Tom, tu sais qu'est-ce que c'est, Tom ? Tu sais qui sont ces femmes ? Ce sont des selkies. Des selkies vivent sous forme de phoques dans l'océan, mais une fois par an, ils viennent sur la plage. Et alors, ils se glissent hors de leur peau de phoque et deviennent femmes pour une nuit, pour danser jusqu'au lever du soleil. Et tu sais quoi, Tom ? Tu vois là-bas leur peau de phoque sur le rocher? On dit que si jamais les selkies ne retrouvent pas leur peau, elles doivent rester sur la terre sous forme humaine. Viens avec moi. Et puis le frère de Tom est allé vers le rocher où il y avait les peaux de phoque. Il en a pris deux. Il a jeté une peau vers Tom. Prends ça, Tom, tu verras. Ils se sont recachés derrière le rocher. Sur la plage, parmi les femmes, il y avait une femme qui a commencé à chanter. Well, I went out strolling one evening, not meaning to go very far. When who should I meet but this pretty fair maid come traipsing along the highway. A sad misfortune came over me, which caused me to stray from the land. Far away from my friends and relations, betrayed by a black velvet band. Tom ne pouvait pas détourner ses yeux d'elle. Elle avait des cheveux longs qui brillaient et qui enveloppaient son corps. Et dans ses yeux ronds et bleu foncé, Tom a vu tout le mystère de l'océan. Her eyes, they shone like diamonds. I thought her the queen of the land. And her hair, it hung over her shoulders, tied up with a black velvet band. Maintenant, vers l'est, le ciel devenait de plus en plus clair. Et une par une, les femmes venaient vers le rocher pour retrouver leur peau. Une par une, elles se glissaient dans leur peau de phoque et elles redevenaient phoque. Une par une, elles disparaissaient sous les vagues. Maintenant, sur la plage, il restait que deux femmes,
qui cherchaient partout pour leur peau. Le frère de Tom s'est mis debout. « Oi ! C'est ça que vous cherchez ?» Il a montré la peau de phoque qui tenait dans sa main. Une des femmes a couru vers le frère de Tom. Elle s'est jetée à ses genoux. Elle a commencé à pleurer. Et le frère de Tom lui a dit « Mais arrête, lève-toi, viens avec moi, tu seras ma femme. » Et il lui a pris par la main. Ils sont partis. Et maintenant sur la plage, il restait que Tom et la femme qui avait chanté. Elle est venue auprès de Tom. Elle a regardé dans ses yeux. Elle lui a dit, « Give me my skin, please give me my skin. Donne-moi ma peau. » Mais Tom, il ne pouvait pas. Et il lui a dit, « Je ne peux pas donner ta peau. Viens avec moi, on sera heureux. Tu seras ma femme. Je t'aime. » Et il lui a pris par la main. Ils l'ont amené vers la terre. Pour la première fois, elle a senti l'herbe sous ses pieds. Elle a senti l'odeur de la terre et des feuilles sur les arbres. Tom l'a amené vers sa maison. Il lui a montré le jardin. Il lui a décrit sa maison, sa famille. Et la première nuit, quand la femme était dans son lit et qu'elle dormait, Tom s'est levé. Il a retrouvé la peau. Il a pris et il a caché pour qu'elle ne le retrouve jamais. Au début, ils étaient heureux ensemble. Chaque matin, avant d'aller à la pêche, Tom lui embrassait sur la joue. Il lui dit « Je t'aime. À ce soir. » Et elle aimait quand il rentrait de la pêche et il sentait la mer, le vent, le sel. Et lui, il était content de l'entendre chanter dans la maison. Et les longues nuits d'hiver, quand la terre était étouffée par la brume, ils étaient contents de sentir la peau de l'autre dans le lit. Et elle, elle lui racontait sa vie sous l'eau, les forêts d'algues qui bougent avec les vagues, les baleines qui nageaient dans les courants, les formes vertes et blanches des icebergs dans l'océan du Nord. Son ventre s'est arrondi. Ils ont eu un premier enfant, et puis un deuxième. Et puis un troisième. Et leur amour a grandi. Et les enfants ont grandi. Elle les a menés à la plage. Elle les en a appris de rester calmes afin de voir les crabes et les oiseaux. Elle les a appris d'écouter le chant du vent au-dessus des vagues. Elle les a appris de regarder autour, de voir les pêcheurs, les femmes. Et elles les ont appris le goût de l'aventure, le goût du sel, de la mer. Les enfants ont grandi. Mais elle, ses yeux devenaient de plus en plus noirs. Et souvent la nuit, quand les enfants dormaient dans leur lit, Tom retrouvait sa femme sur un rocher dans la baie, en train de chanter tristement pour les vagues. Pourquoi tu chantes comme ça? My heart belongs to the ocean, Tom. Mon cœur appartient à l'océan. Je ne veux pas l'oublier. Please give me my Tom's. Please give me my skin, Tom. Please. Donne-moi ma peau, s'il te plaît. Mais Tom, il ne pouvait pas. Il l'aimait. Et elle, elle a continué de maigrir et d'avoir les yeux qui étaient de plus en plus noirs. Et puis, un matin, son fils aîné lui a appelé. « Maman, viens ici, j'ai trouvé quelque chose. » Elle est montée dans le grenier où il était. Et il a mis quelque chose dans ses mains. Elle a enlevé le tissu qui était autour. Elle a retrouvé sa peau de phoque couverte en poussière. Elle ne pouvait pas partir. Elle l'a re-emballé, elle l'a recaché. Et pendant les mois qui ont suivi, elle a essayé d'oublier sa peau. Mais une nuit, quand les enfants dormaient dans leur lit, et Tom y dormait aussi, la femme est montée dans le grenier et elle a repris sa peau. Elle est descendue, elle a ouvert la porte de la maison, elle a commencé à courir vers l'océan. Une fois sur la plage, elle a glissé une jambe dans la jambe de la peau de phoque. Elle a glissé l'autre jambe et puis elle a hissé la peau au-dessus de ses genoux, au-dessus de ses cuisses, au-dessus de sa taille, au-dessus de ses seins, au-dessus de ses épaules et au-dessus de sa tête. Elle est redevenue phoque. Elle s'est mise sur son ventre sur le sable et elle a commencé à glisser vers la mer. Une fois, elle a retourné sa tête pour regarder la terre. Et puis, elle a glissé sous les vagues. Elle a senti l'eau qui entourait son corps. Elle a commencé à se balancer dans les vagues, dans les courants. Elle a surfé les vagues. Elle a dansé autour des algues. Et puis, elle a plongé vers les eaux les plus profondes. Pendant les très longs mois après, Tom regrettait d'avoir jamais vu le Selkie. Il était sur le rocher dans la baie, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Mais une nuit, lorsque il regardait l'océan, il a vu apparaître devant lui la tête d'un phoque qui sortait de l'eau. Et le phoque a nagé vers la plage. Le phoque a sorti de l'eau. Et petit à petit, il sortait de sa peau. Et Tom a vu devant lui sa femme. Elle est venue auprès de lui. Elle lui a pris par la main. Et elle a dit, « What are you crying for, Tom? » The ocean's salty enough as it is. It's full of salt water already. Stop crying. Pourquoi tu pleures, Tom? L'océan est assez salé déjà. Arrête de pleurer. Viens avec moi. Et il l'a amené sur la plage. Ils ont dansé toute la nuit, ensemble, jusqu'à l'aube. Et à l'aube, la femme a repris sa peau et elle a dit à Tom, « Tom, chaque nuit de solstice d'été, je viendrai ici et on dansera ensemble jusqu'à l'aube. » On ne sait pas comment a fini leur histoire, mais on dit que lorsque les enfants jouaient sur la plage, ils voyaient souvent un phoque au loin dans la mer qui veillait sur eux. Et on dit aussi que si vous descendez à côté de cette baie, la nuit de solstice d'été, et que vous écoutez, vous entendrez. Her eyes they shone like diamonds. I thought her the queen of the land. And her hair it hung over her shoulders, tied up with a black velvet band. Pourquoi j'ai choisi ce conte? Alors, déjà, je viens de la culture néo-zélandaise et irlandaise et anglaise. Et le conte sur les Selkies, ça faisait partie de mon enfance. Je l'avais déjà entendu et j'ai vu un film qui parlait des Selkies aussi. Et j'étais toujours attirée par l'idée d'une créature qui venait d'un autre monde, qui était mystérieux. Et puis quand j'ai retrouvé ce compte il y a 2 ans, c'était un moment que j'ai cherché des comptes sur la mort. Et pour moi, à ce moment-là, c'était un compte qui parlait de la mort et qui, pour moi, donnait une autre façon de voir la mort, de l'appréhender, et qui me donnait une sorte d'apaisement par rapport à la mort. Mais plus récemment, je me suis rendu compte aussi que c'était un conte qui parle d'une créature qui est partagée entre 2 mondes différents. Et je pense que ça me parle aussi pour ça. Puisque en ce moment, je me retrouve à habiter entre 2 pays différents. Voilà.
Chest won't succeed to breathe if not the air of you. Surely there's never been a shade so blue, a stank attitude so not mad at you, not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Oh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do. But you, I want to make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison, existing the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect, reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soul may make love to my soulmate. My soul may make love to my soulmate. Shit. I wonder, how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me what you like that. Now what you like that. Tell me what you like that. What you like that. Tell me what you like that. What you like that. I'm gonna ask you again now. Tell me. Legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. Same meditation. You know what? This right here is poetry. Thank you.
La nuit est tombée. Aline ne dort pas. Elle sort faire un petit tour. Ses pas creusent la croûte de neige. Il y a des bruits étranges. Quel est ce long cri perçant ? Un bruit de pas très léger. Aline a dû rêver. Un bruissement furtif, sans doute le vent dans les herbes. Un clapotis dans la mare, Aline ne voit rien que son reflet. Un grognement là, tout près, surtout ne pas se retourner. Il fait vraiment noir ici. Le cœur d'Aline ne fait qu'un bond. Vite, à la maison. Aline s'arrête tout d'un coup. La nuit s'amuse du tour qu'elle lui joue. La nuit ne me fait pas peur, répète Aline en pressant le pas.
Attends, je vais t'expliquer. Alors en fait, au début, il y a deux sœurs, Elsa et Anna. Et en fait, Elsa, elle veut jouer à ce qui lui plaît, alors que sa sœur, elle veut tout le temps jouer à la poupée, à la dinette. Elle est là, elle fait « Ouais, on va jouer à la princesse !» Et comme elle en a marre, bah, elle la péta. Et ses parents, comme c'est des bons gros fragiles, ils vont voir un lithothérapeute pour savoir s'il n'y a pas un caillou qui permette de soigner leur fille qui refuse de se conformer à l'image systémique de la femme. Et le lithothérapeute, il dit « Ouais, votre fille, il faut qu'elle respecte leur naturel des choses, elle doit jouer à la poupée, voilà, ça fait 250 €. » Et il donne aussi de l'ambre ou je sais pas quoi pour soigner les bleus d'Anna. Alors Elsa, elle fait « Ouais, niquez-vous !» Et elle s'enferme dans sa chambre et elle écoute du Rihanna toute la journée en hurlant que c'est son modèle. Et sa sœur, elle vient tout le temps, elle fait
Est-ce que tu veux faire du shopping ? Viens, on va chez l'esthéticienne.
Et finalement, un jour, les parents, ils laissent leur fille comme ça sans complexe et ils s'en vont en mer pour aller chercher de l'eau salée pour soigner leur verrue. Et ils meurent en mer et du coup, Elsa doit devenir reine. Et alors là, elle est en joie, elle fait haha, je vais pouvoir défoncer le patriarcat. Et pendant la soirée d'inauguration de l'émancipation de la femme par la prise du trône, il y a sa sœur qui vient et qui fait oh, j'ai rencontré un mec, on va se marier, je prendrai son nom, on ira dans son royaume. Et Elsa, elle fait mais bordel, t'as pas besoin du nom d'un mec pour briller, tu vas prendre son nom et perdre toute existence propre et indépendante. Et sa sœur, elle dit ouais, mais c'est la tradition. Et là, Elsa, elle jette un froid. Et tout le monde est là en mode oh là là, elle donne une mauvaise image de son combat, ou c'est une féminazie. Et du coup, elle se barre en chantant
libérée, délivrée, je serai jamais plus dominée.
Et elle se construit un palais safe. Et ensuite, Anna laisse le trône à son mec et part chercher Elsa. Elle rencontre un gars dont le métier c'est de vendre de la glace sur une montagne froide, preuve qu'il a pas inventé l'eau chaude. Et elle lui dit allez, on va chercher ma sœur et lui faire comprendre qu'elle est trop extrémiste. Pendant ce temps-là, le mec que doit épouser Anna, il est là tranquille, il fait ce qu'il faut. Et puis il y a un gars qui arrive et qui dit ouais, vous vous rendez compte quand même, Anna, elle est partie avec la reine et la reine c'est quand même une féminazie, c'est quand même vachement dangereux. Alors du coup, il dit bon, allez, je vais aller quand même chercher Anna qui vient avec moi. Et le vieux il dit oh, moi je vous prête deux gars. Et en fait, les gars, c'est des gros masculinistes. Anna arrive au palais de sa sœur avec le vendeur de glaçons et son poney et elle lui dit reviens Sista, je t'aime. Et sa sœur elle dit ouais, mais j'en peux plus de l'oppression systémique qui objectise la femme. Et Anna, elle dit non, mais on a pas besoin du féminisme, on a le droit de vote. Alors Elsa la repéta comme quand elles étaient petites. De son côté, le vendeur de glaçons, il se rend compte que chez Anna, c'est pas à fond la forme. Et du coup, il l'emmène chez ses potes lithothérapeutes pour aller chercher du gravier comme la dernière fois. Et lithothérapeute, il lui dit ah, mais non, mais maintenant ça marquera plus, maintenant il faut qu'elle profite des ondes quantiques de l'amour pour être guérie. Voilà, ça fait 250 €. Pendant ce temps-là, le mec d'Anna, il arrive au palais, il commence à essayer de discuter avec Elsa, mais les masculinistes qui sont là, ils lui laissent pas le temps de discuter, ils finissent par l'assommer avec leur argumentaire pourri. Et comme Anna a besoin d'ondes quantiques pour guérir, le vendeur de glaçons, il la ramène au palais pour qu'elle aille voir Hans. Et sauf qu'en fait, le gars, c'est un faux allié. Et le gars, il veut pas du tout l'embrasser, il est là haha, mais moi je veux juste le patriarcat, je n'ai aucune raison de t'aider à aller mieux. Et autant dire que ça diffuse pas beaucoup d'ondes quantiques d'amour. Et de son côté, Elsa, elle se réveille enfermée dans la prison de l'oppression systémique. Elle se libère facilement parce qu'elle connaît le truc, elle se casse, et en parallèle, Anna est libérée par un prophème plutôt sympa, et ils partent chercher les ondes quantiques auprès du vendeur de glaçons, qui lui est en train de les rejoindre parce qu'il a vu la shitstorm. Et le masculiniste qui retrouve Elsa, il lui ment, il lui dit ah, t'as tué ta sœur quand tu la péta pour la rendre triste et pouvoir la chasser. Et là, Anna arrive à toute vitesse et dit mais t'as pas fini de t'approprier l'espace public. Et du coup, elle comprend qu'elle a besoin du féminisme et elle le dégage. Et le vendeur de glaçons, il dit mais on va se marier avec Anna et chacun gardera son nom. Du coup, Anna, elle épouse Jean Cricri, le vendeur de glaçons, et ils s'achètent un nouveau traîneau parce qu'on peut être déconstruit et aimer collectionner les traîneaux. Et du coup, voilà, c'est ça l'histoire de la Reine des Neiges.
Avalon, l'île des mystères, réapparaît tous les 1000 ans une nuit de lune noire. Et tous les 1000 ans, elles répondent à l'appel. Elles n'ont aucun souvenir, juste une inquiétude de ne pas retrouver sa place, d'être confrontées au jugement, d'avoir à changer, d'aller vers l'inconnu. Mais elles répondent à l'appel, elles sont prêtes sans même le savoir. Et quand les brouillards se dissipent, elles se dirigent vers l'île en passant par le pont. Elles refont le cercle qu'elles font tous les 1000 ans. Alors le vent se lève, le ciel se gèle, le temps se fige. Tous les 1000 ans. Il y a 1000 ans, la reine Guenièvre et Morgane la fée se sont retrouvées face à face. Et Guenièvre a gagné. Pendant 1000 ans, elle a régné avec son dieu tout-puissant, qui sait tout, qui comprend tout, qui décide seul le bien, le mal. Pendant 1000 ans, assise sur son trône, elle a ordonné ce qu'il faut dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire, penser ou ne pas penser. Elle a récité ses prières pour ne pas finir brûlée avec les sorcières, les mégères, les vipères, gardiennes et chiennes de l'enfer, fidèles à leur instinct, mariées d'amour à leur nature sauvage. Guenièvre veut sincèrement sauver Morgane et tous les siens, les siennes des flammes de l'enfer. Égarées, elles sont perdues si elles ne se résignent pas à n'adorer qu'un dieu, qu'une seule réalité, une seule morale, une seule vérité universelle, à laquelle elle a sacrifié le bonheur d'aimer pour le laisser au diable et à tous les damnés. Morgane l'attire et lui fait peur. Elle ne voit d'elle que l'ombre qui la met en valeur et lui assure que c'est elle qui a raison. Qui incarne le bon, le vrai, le juste, qui protège le faible et tous les opprimés des tentations de l'ombre, de la puissance, de l'obscur, de la confrontation, du monde sauvage. L'instinct. L'instinct dont il faut se débarrasser pour être la gentille, l'instinct qui conduit la méchante Morgane. Avec ses peaux de bête, ses poids de cerf, ses griffes de sanglier, arpentant la forêt, invoquant les esprits, écoutant tout son être, prêtresse de 1000 dieux et de 1000 déesses, dans un monde aux 1000 cultes, aux 1000 genèses, 1000 vérités, 1000 morales, 1000 réalités incarnées, qui se respectent et se laissent vivre, se laissent vivre. 1000 ans ont passé, elles sont à nouveau là, toutes formant le cercle. Elles voient Guenièvre, Morgane à nouveau face à face. Elles se sentent arrachées à ce lien qui 1000 ans auparavant nourrissait leurs entrailles. Elles ont envie d'écouter à nouveau leur corps, relié par le cœur, transformer la peur du péché en joie d'être unie, prête à étreindre les mystères, à voir à travers croire, ressentir sa propre et unique vérité, la reconnaître chez l'autre et la faire respecter. Intègre, entière, reliée par le cœur, reliée par le cœur à ses sœurs, reliée par le cœur au système. Morgane est fatiguée. 1000 ans à survivre à côté, montrer du doigt, vilipender, à lutter pour défendre son droit à exister. Mais cette fois, elle n'est plus seule. Les filles sages, on en a marre de se taire. Être gentil, ce n'est pas forcément se laisser faire. Et s'y lever la tête, se révolter, arrêter de se laisser écraser, c'est être la méchante. Elles sont nombreuses à être prêtes à devenir méchantes, à sortir les griffes, à parler, dénoncer, refuser d'être des petites choses fragiles à protéger, à se débarrasser de leur reine qui se prend pour leur mère, à accepter que la colère est l'affirmation de leur légitimité à être. Le cercle se resserre, Guenièvre le ressent, elle est en train de perdre la partie, elle va droit à l'échec. Que faire? Sortir ou rentrer dans le cercle? Elle dépose la couronne, Morgane sourit et rejoint toutes ses sœurs. La couronne reste au centre. Le cercle formé par les corps, les cœurs tournent, fait monter la puissance, et on a crié, accouche du printemps.
que les mots que sont les quels sont les mots qui vous manquent encore? Qu'avez-vous besoin de dire? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtre? Peut-être que pour certaines d'entre vous, ici, aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Parce que je suis une femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi, une poète, guerrière noire, qui fait son boulot, venue vous demander « Et vous, est-ce que vous faites le vôtre ?» Nous pouvons nous asseoir dans notre coin, muettes, comme des tombes, pendant qu'on nous massacre, nous et nos sœurs, pendant qu'on nous défigure et qu'on détruit nos enfants, pendant qu'on empoisonne notre terre. Nous pouvons nous terrer dans notre abri, muettes comme des carpes, mais nous n'en aurons pas moins peur. Audre Lorde.
Opressão, abaixa sua voz, abaixa sua mão.
Mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei, pra ser ouvida o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100%
Vous êtes toujours sur Lilith Martin et les autres, et on va continuer avec un autre mythe que j'ai redécouvert par le magazine qui s'appelle Icônes lesbiennes, les femmes de nos vies, et qui a voulu visibiliser par une affiche des personnalités exemplaires, objets de fantasmes. Des icônes lesbiennes sont autant de figures tutélaires qui permettent aux femmes queer de se construire individuellement et de se forger une culture commune. et que je continue à les citer, c'est écrit « Un article sur les icônes lesbiennes, ça risque de tourner en rond. On va toutes citer les mêmes vu qu'il n'y en a pas beaucoup. » C'est-on entendu dire ? Eh bien raté, au fil des interviews, la liste ne cesse de s'allonger. Certaines nous ont paru évidentes, comme Virginie Despentes, Marlène Dietrich, Virginia Woolf ou Colette. D'autres étaient plus confidentielles, l'écrivaine et photographe Claude Cain, la chanteuse Gribouille ou la romancière et dramaturge Juna Barnes. Des personnages de la pop culture comme Wonder Woman, Willow de Buffy contre les vampires ou encore Shane de The L World sont elles aussi venues compléter le patchwork. Et c'était aussi l'envie qu'on connaît beaucoup les icônes gays comme Freddie Mercury, George Michael, Dalida, en passant par Oscar Wilde, Mylène Farmer. Et là, et ben, c'était à l'inverse. Lorsqu'on est une femme lesbienne ou bi, fabriquer et cis ou trans, fabriquer son panthéon personnel, donc cis, c'est quand on se reconnaît dans son sexe de naissance, et trans, c'est quand, on se reconnaît plus dans son sexe de naissance. Et du coup, on peut être hétéro ou lesbienne. Et donc, pour tout ça, fabriquer son panthéon personnel demande un effort. Et donc, on va écouter une des figures qui est dans l'affiche. Alors, il faudra juste 30 secondes que j'ai oublié de le mettre à la technique.
Pour une fois, c'est pas moi, pour une fois.
Voilà. C'était la petite transition bafouilleuse. Et on vous laisse écouter cette icône lesbienne. Je ne sais pas si vous avez reconnu, c'était donc le manga Lady Oscar qui a été diffusé fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Donc voilà, pour certaines, elles ont grandi avec et d'autres presque pas. Et donc c'est une histoire vraie, hein, c'est vraiment Lady Oscar était auprès de l'archiduchesse Marie-Antoinette d'Autriche. Et donc elle était dans ses donc elle voilà, était son cavalier quoi, un truc comme ça. Et puis après pendant la Révolution française, et ben elle a changé de fusil d'épaule et elle s'est battue contre l'ordre ancien et contre l'aristocratie, et elle s'est battue avec les personnes qui voulaient plus de ce régime-là, sensibiliser à la misère du peuple de Paris. Elle fera la révolution avec les autres. Voilà, c'était un petit clin d'œil. On termine donc cette émission de Lilith, Martine et les autres, les contes du radiateur électrique, avec une dernière histoire pour vous laisser partir pour ce vendredi 21 décembre.
C'était le milieu de l'hiver et le soleil était rendu très vieux. Toute l'année, le soleil avait travaillé très fort. Jour après jour, il se couchait et se levait. Toute l'année, le soleil avait nourri tous les habitants, toutes les habitantes de la terre, en donnant de l'énergie aux arbres et aux fleurs et à l'herbe, afin qu'ils puissent pousser et nourrir les animaux, les oiseaux, les insectes et les gens. Maintenant, le pauvre soleil était fatigué et avait de la difficulté à se lever le matin. Peu de temps après être sorti du lit, il avait déjà besoin de retourner se coucher. Les journées raccourcissaient donc de plus en plus et les nuits allongeaient jusqu'à ce que le jour soit si court que ça ne valait presque plus la peine de se lever. La nuit était triste pour le soleil. « Viens, viens te reposer dans mes bras, mon enfant, » dit-elle. « Après tout, je suis ta mère. Tu es née de ma noirceur il y a des millions d'années. Laisse-moi te bercer maintenant, comme je berce chaque étoile dans l'univers. » La nuit enveloppa donc le soleil de ses grands bras, et la nuit fut effectivement très longue. « Pourquoi est-ce qu'il fait si noir, si longtemps ?» demandaient les enfants partout sur la terre. « Mais quand le soleil sera-t-il de retour ?»« Le soleil est très fatigué, » disaient les adultes. « Mais peut-être que si, vous, les enfants, le remerciez pour tout ce qu'il fait pour nous, la lumière reviendra peut-être au matin. » Les enfants chantèrent de belles chansons au soleil. Puis ils pensèrent à toutes les choses que le soleil leur donnait. « Merci de faire pousser les laitues, et le maïs, et le riz, et le blé, » dirent-ils. « Merci, merci de faire pousser les arbres dans les forêts et les algues dans les océans, qui nourrit les baleines. Merci de créer le vent qui amène la pluie. » Chaque fois qu'un enfant disait « merci », le soleil commençait à se réchauffer un petit peu et à donner un peu de lumière. Bien en sécurité dans les bras de la nuit, le soleil rajeunissait de plus en plus. Finalement, les enfants durent aller se coucher. « Nous allons rester réveillés pour voir le soleil se lever à nouveau, » dirent les adultes. « Est-ce qu'on peut rester debout, nous aussi ?» demandèrent les enfants. « Vous pouvez essayer, mais vous tomberez de fatigue, » répondirent les adultes. « Mais vous pouvez tous allumer une bougie, parce que chaque flamme est une étincelle du feu du soleil. » « Mettez votre chandelle dans un endroit bien choisi, et elle veillera pour vous, tandis que vous dormez et que vous rêvez au retour du soleil. » Les enfants allumèrent leurs chandelles et les déposèrent dans un endroit sécuritaire, et chaque flamme était une étincelle du feu du soleil. Puis, le soleil jeta un coup d'œil par-dessus les bras de la nuit, et vit les petits feux qui brillaient, et commença à se réchauffer un petit peu plus, à donner un peu plus de lumière, et à se sentir encore un peu plus jeune. Tôt, le matin, les adultes réveillèrent les enfants. « Eh oh, réveillez-vous !»« Oh, réveille-toi, il y a le soleil !» Ensemble, ils grimpèrent jusqu'au sommet d'une colline et firent face à l'est, en direction du soleil levant. Ils chantèrent de belles chansons au soleil et couraient partout pour se réchauffer. Ils attendaient pour voir ce que l'aurore apporterait. Le ciel commença à passer du noir à l'indigo au bleu. Peu à peu, le ciel s'éclaircissait. Une lumière dorée apparut à l'horizon. La nuit entr'ouvrit ses grands bras et dans un éclat de clarté, le soleil apparut, nouveau, fort et brillant. Comme le soleil s'était bien reposé pendant la longue nuit et qu'il avait rajeuni grâce aux chansons et aux remerciements des enfants, il redevint jeune comme un petit bébé né de la nuit une fois de plus. « Le soleil revient ! Le soleil renaît aujourd'hui !» s'écria tout le monde. Et ils dansèrent et ils chantèrent encore pour célébrer la naissance d'un nouveau jour, d'une nouvelle année.
« Ça y est, l'émission de Lilith, Martine et les autres est terminée pour aujourd'hui. Donc, dans le désordre, vous avez entendu alors Billy Brolock, Merle Moqueur, Betty Boone, la nuit un peu remaniée parce que le personnage, le héros, était pas une femme. On n'est pas des poupées de Delphine Beauvois et Claire Cantet. Le générique de Lady Oscar.
Un conte écossais lu par Daniela. La slameuse Akua Naru, qui a la slameuse afro-américaine qui a chanté Poetry. On a écouté un poème d'Audrey Lorde.
Un remix de La Reine des Neiges, version féministe. MC Carole, 100% féministe. Hein.
Un son d'Anne Deval, une conteuse qui travaille sur la dépollution de l'imaginaire collectif et qui parle d'histoires vraies, de lutte et de lutte de femmes.
Et pour terminer, un conte du solstice d'hiver
de Starwook.
Eh bien, à bientôt. Restez sur Radio Canus en 102.2 FM, la plus rebelle des radios. Et oui, ça existe encore d'être rebelle. Et puis, voilà, je voulais faire une petite dédicace à tous ceux qui ont leur anniversaire un 21 décembre, à toutes ces femmes qui ont mis des gilets jaunes et qui sont battues dans la rue. Et puis, c'est bien. À bientôt.